Stanislas Graziani, Le cauchemar de Socrate aux éditions Beau Repère. C'est un livre que je qualifierais à la fois d'humoristique, à la fois de philosophique, il y a un petit côté Voltaire chez vous, j'ai l'impression, et puis en même temps un ouvrage qui est assez acide sur notre société et notamment nos élus.
Oui, absolument. Les élus et la population, j'épargne personne, mais je trouve que c'est un constat, c'est un peu ce qui m'a donné envie d'écrire le livre aussi, c'est un peu un constat de l'absurdité de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je trouve que tout est absurde, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, mais je vais aller ce matin, maintenant on vend des bananes épluchées et on les emballe dans du plastique. Voilà, je ne sais pas comment vous dire d'autre. Des mandarines, on enlève la peau et on les emballe dans du plastique. Moi, je trouve ça... Voilà, et c'est un petit exemple comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'absurdité dans la façon dont on se laisse gouverner et la façon dont on mène nos vies, en fait.
Alors, votre personnage, je dirais presque le héros, alors je ne sais pas le héros si c'est Socrate ou si c'est Daniel Dravo. Daniel Dravo,
on va le. C'est les deux, parce que il fallait évidemment pas faire quelque chose de manichéen, c'est-à-dire que le personnage principal, à travers les yeux de qui on voit l'histoire, c'est Daniel Dravo, donc ce politicien contemporain qui est projeté en Grèce antique. D'un point de vue, c'est lui. Le héros et Socrate l'antagoniste, parce que c'est lui qui est... Socrate est le seul à comprendre ce qu'il est en train de faire, toute la manipulation qu'il est en train de mettre en place pour lobotomiser les gens, pour prendre le pouvoir. Et donc c'est de son point de vue l'antagoniste. Et évidemment, on peut tout retourner et dire que c'est lui qui veut pourrir la société et que Socrate est le seul à la défendre. Dans les histoires que j'aime bien, c'est plus du tout manipéquéen comme dans les films des années 80. On avait des méchants qui étaient non seulement qui voulaient détruire le monde, mais en plus qui mangeaient mal, qui étaient tout le temps énervés, etc. Le Daniel, on a quand même beaucoup de tendresse pour lui quand on comprend ce qui se passe, d'où il vient, son histoire, etc.
Oui, mais enfin, il a quand même, il a du lourd, hein, il a un passif, hein, plutôt magouilleur, enfin élu de, on va dire que c'est élu de père en fils, de grand-père en petit-fils même. D'une grosse commune, et donc magouilleur, un peu dépravé, c'est un véritable homme de pouvoir. Alors on pourrait même mettre des noms hein, dessus, ça résonne sur certains.
Hein. Ouais.
Non.
Je suis curieux, qui ça alors?
Non, on va pas balancer tout de suite, mais...
Non, mais il y a cette espèce de cynisme qu'on retrouve beaucoup. Alors là, pour le coup, dans la classe politique, c'est vraiment universel. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le media training, c'est-à-dire entraîner souvent les chefs d'entreprise à communiquer en situation de crise. Et j'ai beaucoup appris les trucs qui font qu'on gagne un débat indépendamment du propos. Il y a quand même plein de trucs qui ont été inventés chez les Grecs au départ, en Grèce antique, ce qu'on appelle la rhétorique, qui permet de gagner un débat alors qu'on n'est absolument pas dans le fond. Et quand on regarde les hommes politiques aujourd'hui, ils sont à peu près tous pareils, c'est-à-dire en gros, ils se fichent pas mal de vous et de moi et du destin du pays, et ils ne pensent qu'au pouvoir, qu'à être élus, etc. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent les réseaux sociaux pour voir les tendances, et puis ils font leur discours en fonction de ça. Et il y en a pas un qui ait une vraie vision.
Alors donc, notre Daniel Dravo, on va quand même dire en quelques mots comment il se retrouve parachuté dans cette Grèce antique.
Alors, il se retrouve parachuté, alors
sans parachute, un saut sans parachute en fait.
C'est un procédé narratif. Je me suis évidemment longtemps posé la question et je ne l'explique pas. En fait, tout part en sucette dans sa vie, sa carrière, sa vie familiale. S'il apprend que ses enfants ne sont pas lui, etc., il va pour se suicider et il se jette dans le vide. Évidemment, symboliquement, il se jette dans le vide et il atterrit en Grèce antique. Et là, tout est remis en question. Alors, il est accompagné de son presque fils, Tom, avec qui il a une relation... vraiment filial, qui lui est un artiste qui sait tout faire, mais qui fait tout pas très bien. C'est-à-dire, il est sculpteur, peintre, vidéaste, romancier, etc., mais il finit jamais rien, il est nul. Mais il croit qu'il est bon parce que Daniel, à travers sa mairie, lui fait commander plein d'œuvres. Donc, encore un autre qui ne se remet pas en question.
Alors, il se dit
Mais
quand
il faut.
même qu'il y a du potentiel quand il arrive dans cette Grèce. Très très vite, il prend le premier pas, et quand on lui demande comment il s'appelle, il dit Danielos Aliagas.
Oui, bah, c'est le premier nom grec qui lui vient à l'esprit. Et comme il est. En gros, ils ont un peu volé des pommes parce qu'ils avaient faim. Et. Où ils sont arrêtés par les gardes, où il est invité à débattre dans l'agora, puisque les citoyens étaient libres de débattre avec les hommes politiques à l'époque. Et donc il va pour débattre, et c'est là qu'on voit que, ne sachant absolument pas quels sont les problèmes du peuple par qui il désire être élu, ne sachant même pas de quoi on va lui parler, avec ses petites phrases et ses techniques de dialectique, il va quand même gagner leur suffrage.
Vous reprenez toutes les phrases et tout ce que nos politiques ont pu dire au fur et à mesure des années, du je vous ai compris, j'ai fait un rêve, etc. En passant, vous faites
Oui.
des comparaisons osées, même quelquefois, puisque le théâtre de l'Épidore comparé au Guignol de l'Info.
Mais c'est vrai, parce que Aristophane avait à l'époque, il mettait en scène les hommes politiques pour se moquer d'eux, et c'est vraiment le même principe que les guignols de l'info, en fait. Et c'est un peu le principe du bouquin aussi, c'est de les montrer, de les mettre dans des situations et d'aller expliquer leur façon de penser d'une manière évidemment cynique et drôlatique, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, évidemment.
Et Socrate, dans tout ça, dupe ou pas dupe de de ce personnage?
Alors, je vous dis, j'aime pas être manichéen. Hein. D'ailleurs, on a tapé sur les hommes politiques, mais on pourrait tout aussi bien taper sur la population. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit la génération qu'on appelle woke, qui se cache derrière des causes absolument nobles et formidables. Mais je tape sur eux, mais je tape autant aussi bien sur les écolos. Les écolos, c'est quand même la plus belle cause et la cause la plus urgente de notre civilisation aujourd'hui. Et les écolos, ils passent leur temps à se demander s'il faut dire une philosophesse ou une philosopheuse. Et on continue à ramener des tonnes de plastique du supermarché, ça inquiète personne et tout le monde s'en fout. Enfin, c'est d'une absurdité tout ça. Et voilà, ils sont tous les mêmes et on est tous les mêmes, parce que je me mets évidemment dans le même panier, à chercher des causes. En fait, l'humain est stimulé par le conflit. Donc dès qu'on est en situation de conflit, on trouve une stimulation qu'on n'a pas dans la paix. Socrate était un des seuls à avoir essayé de dépasser tout ça et de trouver la paix intérieure, non pas en provoquant le conflit avec l'extérieur, mais en se remettant en question lui-même. C'est ça qui me plaît chez lui. Après, il est évidemment imparfait, il a été le premier grand philosophe comme ça, donc évidemment, il n'a pas pu tout comprendre dans une vie. Pour son époque, il est d'une intelligence absolument extraordinaire et d'une conscience surtout, parce qu'il fait les choses en conscience. Et il est notamment le premier à dénoncer cette illusion de aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment qu'ils sont malheureux parce qu'ils peuvent pas s'acheter le dernier sac Hermès. Et être à la mode et acheter tout ce qu'ils veulent. Évidemment, s'ils pouvaient acheter tout ce qu'ils voudraient, ils seraient pas plus heureux. Et voilà, et Socrate a été le premier à dénoncer ces illusions-là.
Le cauchemar de Socrate, aujourd'hui, c'est notre monde à nous.
Exactement, exactement. Il y avait un film qui s'appelait Le cauchemar de Darwin sur l'évolution des animaux, notamment ces lacs en Afrique où il y a des poissons qui, suite à la pollution, sont devenus absolument des monstres. Et là, c'est le cauchemar de Socrate, c'est-à-dire tout ce qu'il avait pu rêver d'idéal pour notre société, on est en train de faire exactement le contraire.
Est-ce que c'est aussi un parallèle par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, ce qui laisse un peu réfléchir à, alors vous dites l'essentiel, mais aussi le non-essentiel, hein, puisque en ce moment c'est un terme à la mode.
Oui, alors la société grecque, c'est différent. Elle a périclité parce que l'Empire romain est passé par là et qu'évidemment, les belles idées face au canon ont toujours eu, ben, forcément, en tout cas à court terme, peu d'effets. C'est ça qui m'a touché dans cette société. Moi, l'idée de départ, c'était de mettre un homme politique contemporain face à des gens très intelligents et très conscients de l'essentiel, justement, des gens qui se posent vraiment les questions essentielles. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qu'on est censé faire sur Terre? Quelle est notre mission dans la vie? Et évidemment, Je pense qu'on a atteint un pic d'intelligence dans cette civilisation. Bon, évidemment, après, on est retombé au Moyen-Âge, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'à voir Kaamelott, hein. Kaamelott, c'est intéressant parce que le roi Arthur est le seul qui a été éduqué à Rome, donc à une vraie civilisation, et il est entouré de barbares du Moyen-Âge qui sont complètement crétins, dont la moitié ne savent pas lire. Donc c'est très amusant pour ça. Et c'est un peu la même chose, c'est que. Bah, aujourd'hui, en fait, on a complètement oublié cette prise de conscience très forte qu'il y avait à l'époque, et puis on est retombé dans voilà, une société où on est un peu moutonnifié, en fait.
Alors, à qui la faute? À ceux qui dirigent ou à ceux qui les élisent?
Mais aux deux, et c'est pour ça le propos du livre, c'est de dire c'est pas le système qui est mauvais, le système de la démocratie est évidemment le moins mauvais de tous les systèmes qu'on a pu mettre en place, mais à condition que les gens qui votent aient une certaine éducation et ne votent pas bêtement pour celui qui est le plus beau, qui parle plus fort ou qui a le plus de charisme, mais s'intéresse réellement à la substance de son discours.
Voilà, donc eh bien moi je conseille à celles et ceux qui nous écoutent de lire Le cauchemar de Socrate avant les élections présidentielles. Ça les aidera peut-être à réfléchir à quel bulletin ils mettront dans l'urne.
Ah, ça les aidera à comprendre, surtout à décoder les techniques de dialectique par lesquelles on s'est enfumé toute la journée, ça c'est sûr.
Merci
Ben,
beaucoup
merci beaucoup.
Stanislas Graziani. Donc Le cauchemar de Socrate, c'est publié aux éditions Beau Repaire.
Merci beaucoup.